Alors, j'aimerais. Est-ce que Raphaël Constant, vous nous entendez? Vous nous entendez? Vous pouvez intervenir à tout moment, hein, d'accord? Alors, je vais passer le micro. Je vais passer aussi le micro aux personnes dans la salle pour ceux et celles qui aimeraient poser des questions.
Oui, je voudrais intervenir parce qu'il y a quand même une chose qui, mot qui n'a pas été dit, c'est que vous parlez de colonisation, d'esclavage, mais qui est la cause de tout ça? Le système capitaliste? Ah oui, parce que j'ai vu un débat entre quelqu'un qui me parlait de l'esclavage arabe et l'esclavage occidental, et il n'y a pas de bon et mauvais esclavage, hein, que ce soit un esclave dominé par un blanc ou un esclave dominé par un arabe, on est traité pareil. Un esclave, c'est quelqu'un qui on prive de liberté, qu'on oblige à travailler. Et donc la cause, c'est le capitalisme. La colonisation, la première cause de la colonisation, c'est le capitalisme. La découverte de l'Amérique, c'est là où s'est développé le capitalisme prédateur. Celui du pillage avant l'Afrique, avant du pillage des populations. Là où le débat racisme, femme et mexicaine, il y a un fameux débat entre Las Casas et Sepúlveda, à savoir, est-ce que les Amérindiens sont des êtres humains? Est-ce qu'ils sont des omelettes, que c'était Sepúlveda qui disait ça, disons des êtres inférieurs, donc sous-entendus à être dominés comme des... Et être des... Voilà. Et donc, la Casas avait gagné. Après, le film de carrière, là, qui était très bien, elle a fini montrer un esclave noir pour montrer...
Et là, la question.
Voilà. Mais la question, c'est, voilà, c'est que personne n'a parlé de la dimension de la cause du capitalisme. On parle trop de... Et quand vous parlez de damnés de la Terre, mais c'est le couplet de l'international, c'est debout les damnés de la Terre, de l'international. Et c'est la dimension aussi marxiste de Frantz Fanon. C'est-à-dire que Frantz Fanon est plutôt un apport au marxisme. Ce que Marx n'a pas pensé à son époque-là, c'est le côté psychiatrique de la domination. Et Fanon, c'est l'apport de la psychiatrie dans le domaine de la domination qui est à l'intérieur de nos têtes. Et toutes les sociétés sont dominées. Même en Europe, il y a des dominants et des dominés. Même sur les femmes, il y a des textes qui disaient que les femmes étaient inférieures aux hommes, médicalement parlant. La question, c'est pourquoi vous n'avez pas parlé de cette question du capitalisme, de l'économie de marché? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt de sortir du capitalisme? Parce que ça va de pair avec de décoloniser les esprits. Ça va de pair. L'un passe en l'autre, puisque l'un est à la cause de l'autre.
Merci. Une autre question avant de répondre à toutes ces questions. Alors, pardon.
D'abord, je m'excuse. D'abord, je vous remercie. C'était une séance absolument fascinante. Malheureusement, j'étais une heure et demie en retard parce que j'ai fait la Great Meeting aujourd'hui. J'ai bien dormi car c'est samedi. Donc, j'ai raté beaucoup de choses. Mais j'ai entendu une chose qui m'a vraiment étonnée. La dame je ne me rappelle pas exactement les mots, elle s'étonne par le fait que les Arabes parlent français. Mais comment avoir aucune idée de cela? Moi, j'étais au Liban il y a 2 semaines et les Libanais parlent français parfaitement. En fait, c'est un Libanais qui dirige la langue française. Ahmed Maalouf, il est le chef de l'Académie française, écrivain libanais, et il dirige la langue française. Donc, comment rester dans, on peut dire, comment jeter votre cerveau dans la poubelle comme ça?
Une autre question? Alors, il y a Hassan Messine qui demande le micro.
Bonjour, merci à tout le monde pour les interventions très intéressantes. Salut Saïd. J'ai une question moi, pour M. Lézot tout à l'heure qui parlait du livre de Christian Filostra. Alors malheureusement, je l'ai lu et j'ai envie de dire que la question qui me vient en tête, c'est de se poser la question, comme vous avez dit, le livre a été édité en 2022 et pourquoi? Moi, ça me pose la question, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le livre de Claude Lanzmann, Le lièvre de Patagonie, où il évoque sa relation et les questions qu'il a eues avec Joseph Fanon, pareil, après la mort de Joseph Fanon. Et est-ce que tout ça, ce n'est pas une réécriture de l'histoire dans le but de renforcer la contre-révolution coloniale en discréditant à la fois le FLN en Algérie, dans les deux cas, dans le cas de Fanon, sa relation avec le FLN, et dans le cas de Joseph Fanon, le discrédit qui est fait également du FLN. Alors, je ne fais pas la défense du FLN, loin de là. Mais est-ce que ce n'est pas idéologique de la part de quelqu'un comme Claude Lanzmann qui devient un fervent militant sioniste et qu'on apprend ça après 67, notamment avec ce que vous avez évoqué, le fait que Joseph Fanon demande à retirer la préface de Jean-Paul Sartre suite à ses positions pro-israéliennes après la guerre de 67. Et est-ce que c'est pas la même chose pour les États-Unis par ce Christian Filostra qui était un diplomate américain, spécialiste des affaires africaines et certainement un agent de la CIA? C'est ma question.
Merci. Une dernière question et ensuite la réponse. Et on recommence une autre série de questions. Est-ce que ça vous irait comme ça?
Merci. Bonjour. J'avais une question par rapport à du coup, ce qui était évoqué dans ce que Fanon dit sur le fait de tenter de ressembler à son oppresseur. Aussi celui de le fait de vouloir retourner le stigmate. En fait, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai entendu chez Franco Lolia de la BAN, la brigade antinégrophobie, qui parle de, qui reprend l'exemple de la plantation et qui dit que dans la plantation, aucun noir ne peut survivre sans son moi blanchi. Qui pour moi, ça me fait penser du coup à cette nécessité de ressembler à notre oppresseur. Et du coup, en fait, la question que je me pose, c'est selon vous, comment est-ce qu'on allie en fait cette nécessité de survivre et du coup de se blanchir, et en même temps la volonté d'émancipation, et la volonté de retourner le stigmate, en évitant les pièges du folklorisme, en évitant les pièges des raccourcis, en évitant en fait l'assimilation aussi. Grosse question, mais voilà, je voulais la poser.
Merci. Je prends une dernière question.
Merci encore pour cette super conférence. J'avais une question. On a évoqué brièvement Mandela dans son long chemin vers la liberté. On voit chez Mandela une forte conscience de ne pas faire de blessures trop irréparables et un souci de la guérison et de la réconciliation. Il dit notamment... qui ressent que son devoir, c'est de libérer à la fois l'opprimé, mais aussi l'oppresseur, en disant que celui qui ressent le besoin comme ça d'opprimer l'autre est prisonnier de sa haine, finalement. Je n'ai pas encore lu Fanon, et donc je ne sais pas. Je comprends que Fanon est très sensible à la violence, au trauma, et à la guérison aussi, mais je ne sais pas à quel point il est conscient de la guérison entre les peuples, et je serais heureux d'en entendre parler. Merci.
Merci. On va faire le tour des réponses. Et Raphaël Constant, si tu as besoin d'intervenir, je garde l'œil sur l'écran. Tu me fais signe de la main. Merci.
Oui, moi je voudrais répondre à la question sur le capitalisme. Oui, le capitalisme est bien entendu dans la dynamique de la colonisation. Par contre, il faut faire extrêmement attention à des lectures qui réduisent le processus historique. La vulgate la plus fréquente, qui est la plus ancienne, c'est de dire que le capitalisme est né et il a créé le colonialisme. Je pense que la réalité, je pense que ça, c'est une lecture eurocentrée de ce qui s'est passé. En réalité, la naissance du capitalisme, du colonialisme et du racisme sont indissociables. C'est le même mouvement qui constitue les trois et qui les constitue en créant notre monde moderne, c'est-à-dire un monde divisé en deux, entre des centres qui dominent et des périphéries qui sont dominées. C'est pour ça que le capitalisme, à mon sens, il ne faut pas le dater de l'industrialisation. C'est 1492 qui commence le capitalisme. C'est-à-dire c'est le pillage et la destruction des civilisations amérindiennes qui va produire l'accumulation de richesses par l'assassinat de peuples entiers, qui va permettre l'accumulation primitive ici. Il n'y a pas donc un capitalisme qui après devient colonialisme, c'est dès le début il est taché du sang de peuples entiers. Et le racisme naît en même temps pour justifier et le capitalisme et le colonialisme. Et donc, si on a ça en tête, on ne peut pas dire on va abattre le capitalisme et attendre que ça ait des effets, y compris sur la disparition du racisme, etc. Il faut s'attaquer aux trois en même temps. Dans les pays colonisés, ils sont confrontés directement au colonialisme. Leur question, ce n'est pas le capitalisme. Leur question, c'est d'abord, arrêter ce système d'oppression. C'est, en tout cas, leur expérience quotidienne, c'est ça. Et c'est pour cela que les luttes indépendantistes, même quand elles sont, moi je les soutiens, y compris quand elles ne sont pas des luttes qui veulent le socialisme ou qui veulent l'abolition du capitalisme. Parce que l'expérience du colonisé, c'est d'être dans cette oppression particulière qu'est la colonisation. En fait, la colonisation, c'est le capitalisme sans entrave. C'est pour cela que on l'a abordé tout à l'heure dans le débat. C'est pour cela qu'on retrouve, je crois que c'est toi qui l'as abordé tout à l'heure, on retrouve, mais à mon avis, il faut aller plus loin que ce que tu as dit, on retrouve, en tout cas c'est mon opinion et c'est la thèse que je défends dans mon prochain livre, on retrouve dans les méthodes, et Aimé César était le premier à le dire, dans les méthodes du fascisme, les méthodes qui étaient utilisées dans les pays coloniaux. Et les travaux que je suis en train de mener m'amènent à dire que ça a été le cas. Pour l'Allemagne, il suffit de regarder les pratiques dans l'Empire colonial. Pour l'Italie, il suffit d'aller regarder les génocides en Libye. Pour l'Espagne, etc. C'est-à-dire qu'il y a une matrice coloniale au fascisme. Et donc, ce n'est pas le capitalisme d'abord et le colonialisme après, c'est capitalisme et colonialisme comme étant un tout qu'il faut aborder. C'est le même débat que vous avez déjà entendu sur classe-race. Alors des gens vont dire, il faut mettre d'abord la classe. Et d'autres vont dire, non, mais il y a les discriminations racistes, donc d'abord la race. Mais c'est un faux débat. Hein. La race est un mode de gestion de la classe. C'est-à-dire que c'est une manière de gérer la division des classes sociales. Et donc, il y a des débats qu'il ne faut pas couper en morceaux. À mon sens. Mais ceci dit, vous avez raison d'aborder le colonialisme comme étant le système économique qui met en place le colonialisme. À la question que vous posez, il n'y a pas de réponse. Hein. Il n'y a pas de réponse à votre question, si ce n'est d'être vigilant et conscient. C'est-à-dire que, bien entendu, quand vous vivez dans un endroit, si pour survivre il y a besoin de telle ou telle attitude, bien entendu qu'on ne va pas demander aux gens de mourir de faim, etc. Mais en sachant ce que vous faites. Le danger de tel ou tel comportement ou attitude, c'est quoi? C'est quand on pense que c'est... Quand on l'a intériorisé. C'est pas la concession qu'on fait à un moment donné. C'est quand on l'intériorise comme symbole du mieux par rapport à ce que vous êtes. Et donc, c'est une dimension de conscience. Il y a des concessions qui, par moment, peuvent être faites, mais n'écoutez pas la douce musique qu'on va vous dire sur votre avenir égalitaire avec l'assimilation. Ça fait beaucoup plus mal quand on se réveille en croyant être arrivé. Hein. Moi, j'ai tout fait, je suis assimilé, j'ai bien travaillé à l'école, je parle plus un mot de créole, et puis un jour, vous vous faites contrôler et on va vous dire, tu es un noir. Voilà, on te le rappelle. Ben, là, ça fait mal. Donc, pas d'illusion. Voilà, pas d'illusion. Sur le souci de la guérison, au moment où Fanon écrit, il écrit alors qu'il voit autour de lui des massacres quotidiens. Donc ça ne peut pas être le point premier de sa réflexion. Par contre, ce qu'il dit, c'est que cette guérison, elle passe aussi par une action des peuples des pays colonisateurs. C'est à eux aussi de créer les conditions de la guérison. Hein, sinon, on va demander à la personne qui a le plus à la victime de penser au bourreau. Ça, c'est pas possible. Et donc, le débat est à poser, mais il est à poser ici aussi. Oui, et par rapport à la question moi, j'ai pas lu ce livre, hein, donc je peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, lorsqu'un homme a été diabolisé pour ses écrits indépendantistes, de libération nationale, révolutionnaire, etc., lorsqu'il sa pensée, quel destin elle a ? Là, vous pouvez prendre un Karl Marx, un Che Guevara, un Frantz Fanon, etc. Pour Abdelmalek Sayed, c'était le dernier. Lorsqu'un quelqu'un a été diabolisé, vous avez toujours, des années après, deux types de production théorique. Vous avez un type de production théorique qui va venir nous dire « Oui, il y a tel aspect de son œuvre qui est intéressante, on va reconnaître en apparence pour mieux le neutraliser. C'est-à-dire que c'est pour éliminer les conclusions qui sont les plus embêtantes. Ça, c'est une des manières de soi-disant rendre hommage à des personnes. Oui, Fanon était quelqu'un de très grand, mais on ne va pas dire ses conclusions. Et l'autre manière, c'est lorsque on maintient une pensée vivante. C'est-à-dire non pas qu'on copie, c'est qu'on reprend dans Fanon ce qui nous sert pour aujourd'hui. Je pense que c'est cette direction-là qu'on doit essayer de prendre.
Ok.
Oui, donc pour compléter la question de monsieur, je me fais toujours des cadeaux qui arrivent le jour de Noël. D'accord ? Je me fais toujours de ces cadeaux-là. Donc ce texte m'apparaît, et vous avez vu quelles sont les précautions oratoires que j'ai prises avant de le livrer. Parce que moi-même, je sens qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas très rond, qui est, comme tu disais, Saïd. Eh bien, on prend de trucs. Mais bon, j'ai lu ce texte. Peut-être qu'il a fait ressortir que ce qu'il voulait que faire ressortir. Mais je n'ai rien vu qui soit contraire à ce que j'ai lu sur la pensée de Fritz Fanon. Mais c'est pour ça que vous êtes engagé de faire votre propre analyse de ce texte. Et de toute façon, Fanon, il meurt aux États-Unis, hein. Et lui-même, il dit, je sais que même dans ma chambre d'hôpital, il y a des infirmiers de la CIA, il y a des gens de la CIA, je sais que je suis surveillé. Donc, oui, je suis tout à fait 1000% d'accord avec vous.
Raphaël Constant, tu voulais intervenir ?
Oui, est-ce que vous m'entendez ? Bien ?
Oui.
Là, ça va ? Bon, j'espère que vous allez m'entendre. Le débat est passionnant et ça m'embête d'être aussi loin. Je voudrais dire à la personne qui a posé la problématique capitalisme et colonialisme, je l'invite à lire un ouvrage qui a été malheureusement oublié d'un ancien premier ministre de Trinidad qu'on appelle Eric Williams, qui est mort, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Capitalisme et esclavage » et dans lequel il expliquait comment la traite négrière avait été un élément qui avait permis l'accumulation du capital et le développement du capitalisme. Et si on prend le cas de la France, il est certain que Havre, Nantes, Bordeaux s'inscrivent aussi dans ce cadre. Je tiens à dire que je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Nous ne pouvons pas nous dire on va se battre contre le capitalisme et puis après on va se battre contre le colonialisme et puis après on va se battre contre le racisme. J'invite à lire Angela Davis, qui s'est beaucoup d'ailleurs inspirée de Frantz Fanon, qu'elle a étudié quand elle était à la Sorbonne en 1967. Il y a une transversalité et nous n'avons pas, nous militants de la liberté, de la dignité, nous sommes condamnés à combattre tout en même temps parce que penser qu'on combat un seul front, on perdra les autres et on perdra partout. Donc le racisme est évidemment le produit de sociétés inégalitaires. Il est évident qu'après que le pape Innocent V ait décidé qu'on ne pouvait pas mettre en esclavage les Indiens, mais qu'on pouvait mettre en esclavage les nègres d'Afrique, il est évident qu'il a fallu bâtir un discours pour expliquer que les nègres d'Afrique étaient tout à la fois non pas des hommes, mais en même temps qu'ils avaient quand même une âme et qu'il fallait quand même les éduquer et gérer cette contradiction. Il est certain que le discours raciste qui est construit après est un discours qui a pour but de justifier la mise en esclavage. Comme le discours sur le fait qu'il y a des peuples majeurs qui sont capables de se diriger et qu'il y a des peuples mineurs qui ne sont pas en état. Aujourd'hui, la lutte contre l'esclavage en Martinique, c'est y compris des personnages comme Schœlcher ont expliqué à un moment donné qu'on n'était pas encore, nous, les nègres, ou bien les descendants des viols entre les nègres et les maîtres, on n'était pas encore en état de pouvoir être libre. Comme aujourd'hui en Martinique, on explique aux Martiniquais qu'ils ne sont pas en état d'être indépendants, même s'ils ont toutes les qualités possibles. Il y a un lien évident entre l'exploitation et le discours. Il y a un lien évident entre le capitalisme, l'esclavage, la colonisation et le discours d'aliénation. Et là où Farnon a été remarquable, c'est qu'il a, de manière très claire, dans Peau Noire et Masque Blanc, montré le lien entre la situation économique et la situation de l'aliénation. Je voudrais dire une autre chose qui me paraît importante par rapport au problème de la guérison. Dans Les Damés de la Terre, il y a un chapitre qui est assez iconoclaste peut-être, où Fanon expose des cas psychiatriques qu'il a connus à Blida, qui sont en liaison avec la situation politique. C'est-à-dire que la situation psychiatrique des personnes est la conséquence de la situation politique. Et je rappelle que Fanon lui aussi explique comment il a eu l'occasion d'avoir à soigner un soldat français qui avait torturé et qui était malade psychiatriquement d'avoir torturé. Il battait aussi d'ailleurs sa femme et ses enfants. C'est-à-dire que la colonisation, l'opposition, la lutte de libération des peuples, évidemment crée chez l'oppresseur des conséquences psychiatriques, des conséquences politiques. Mais ne pas penser que Fanon ne l'a pas vu, il l'a dit et il l'a dénoncé. Mais on admettra que notre tâche de militant révolutionnaire n'est pas de nous préoccuper de la santé psychique de nos tortureurs. Parce qu'on perdrait beaucoup de temps à les guérir. Il est préférable de les combattre et préférer d'un second temps, éventuellement, s'ils sont encore vivants, on va les guérir. Mais le combat contre l'aliénation est lié au combat pour la libération. On ne va pas faire le combat de la libération et puis demain le combat contre l'aliénation. Pour se libérer, il faut qu'on se commence à se déposséder de toutes les idées assimilationnistes, réactionnaires, qui ont été forgé dans notre esprit et de ceux de nos ancêtres. Troisième point, je voudrais dire que la question du colonialisme, c'est aussi la question des symboles. La semaine dernière, en Martinique, il y a eu un procès de 11 militants qui ont mis à bas en 2020 la statue de Schœlcher, la statue de Joséphine de Beauharnais et la statue de Dénambuc, qui est celui qui, en 1635, a conquis la Martinique pour le roi, je crois qu'à cette époque, c'était Louis XIV. Et ce qui est intéressant dans ce procès, c'est qu'il y a eu beaucoup de témoins et que la plupart des témoins ont rappelé les idées de Fanon pour estimer que la lutte contre les symboles coloniaux rentrait dans le cadre du combat contre l'aliénation. Voilà. Le délibéré de ce procès aura lieu lundi. Dernière chose, je suis désolé, je n'ai pas noté le nom des gens, mais il y a un camarade qui est intervenu en citant Césaire à propos de la dénonciation que Césaire a fait des méthodes fasciste nazi utilisé par l'Europe contre les peuples. Et ça, c'est essentiellement dans le discours contre le colonialisme, où il dit aux démocrates, entre guillemets, français, ce que vous reprochez aux nazis, c'est d'avoir appliqué aux blancs ce qu'ils appliquaient aux noirs, tant que vous ne considériez que quand ils l'appliquaient aux peuples colonisés, c'était anormal. Voilà. Donc la différence que nous avons et la différence que Paul Fanon, c'est que nous dénonçons toutes les aliénations, toutes les oppressions, et nous ne faisons pas un choix. Parce que faire un choix et faire une hiérarchie de ce qu'il faut combattre, ce serait une erreur fatale. Excusez-moi d'avoir été long.
Merci. On va encore faire tourner pour les questions.
Juste, c'est une moitié observation, moitié question. C'est sur, par rapport à certains porte-parole de Fanon, du coup, qui dénaturent son discours, comme on a dit tout à l'heure. Je pense aussi à M. Adam Schatz, qui en fait fait des biographies de Fanon, qui est invité sur Mediapart et tout. Et il y a aussi Edoui Plenel dans le genre. Et en fait, ils ont cette théorie comme quoi, en fait, le nom de l'article de Schatz, c'est « Les pathologies de la vengeance ». Donc en fait, c'est qu'en fait, les colonisés, en se révoltant, doivent faire attention à leur violence, à leurs affects de vengeance, de colère, etc. Et entre guillemets, avoir une sorte de faire attention à ça et d'avoir une sorte d'éthique aussi de la rébellion, en fait, on va dire. Tous les moyens ne sont pas bons, etc. Et je trouve que ces façons de propager ce discours, bon, non seulement déjà je pense que c'est pas la vraie pensée de Fanon, et je pense que ce discours ça permet de porter un jugement moral sur la résistance, en fait. Je pense que c'est l'inverse de ce qu'on a dit avant, donc c'est un peu une observation, désolé, mais pour savoir ce que vous en pensez, et aussi du coup comment faire la bataille culturelle à ces autoproclamés fanoniens qui sont dans le champ médiatique et aussi de gauche.
Merci. Une autre question?
Bonjour. Moi, je voudrais parler un peu des jeunes et des enfants, des jeunes de quartier. Moi, je suis enseignante dans un quartier d'éducation prioritaire et je peux vous dire que les jeunes de ces quartiers, qui ne sont pas du tout militants, n'ont aucune idée de qui est France Fanon, n'ont aucune conscience politique. Je ne sais pas si je peux dire qu'ils n'ont aucune conscience politique, peut-être que je m'avance un peu trop, mais en tous les cas, ils n'ont aucune information et encore moins de réflexion sur tout ça, sur tout ce qu'on a dit cet après-midi. Et aussi sur la colonisation, sur ce qui a pu se passer dans leur pays, dans les pays respectifs d'où ils viennent, puisqu'on a une forte communauté comorienne. On a une communauté algérienne aussi. Et donc, je me disais, comment nous, adultes qui savons, entre guillemets, comment peut-on lutter pour contrer ça? Et comment peut-on agir au niveau de l'État, au niveau peut-être des programmes scolaires, qui abordent très peu ces questions? Et on sait qu'à l'école, ils se forgent, entre guillemets, la citoyenneté, une citoyenneté commune. Donc je me dis qu'il manque beaucoup de choses, qu'il y a vraiment un fossé entre ce qui se fait à l'école et ce que nous, on pense et ce qu'on a dit. Voilà.
Merci. Encore une question? Oui. Alors, où ça? Il y en a une devant. Je ne vois pas. Je donne le micro à...
Merci. Moi, j'avais une question un peu à propos de ce que vous disiez à propos du fait qu'il ne fallait pas être dans le folklore de nos propres cultures. Mais je crois qu'il y a quand même pas mal d'interlocuteurs, en tout cas dans les milieux des coloniaux, qui font ça, ou en tout cas qui sont critiqués de cette manière-là. Et du coup, comment on est censé réagir face à ça? Parce que moi, en tout cas, je le perçois comme quelque chose d'assez dangereux, parce que ça reproduit des schémas aussi qui sont coloniaux et qui devraient être déconstruits dans nos propres cultures. Et comment on peut répondre à ça aussi aux personnes qui considèrent que, parce que c'est des décoloniaux, ils font un travail qui est intéressant, mais ils ne s'intéressent pas du coup aux choses qui peuvent nous affecter, nous, dans la vie de tous les jours aussi. Voilà.
Merci. Il y a une dernière question. On fera un tour de questions si tu veux bien. Si vous voulez bien, je dis tu, mais je ne vous connais pas.
Merci. Je voulais reposer la question de la guérison, mais peut-être un petit peu différemment, parce que c'est pour ça que je ne connais peut-être pas assez bien, mais il me semblait que Fanon en parlait, mais de la guérison de la société colonisée, et notamment à travers la violence révolutionnaire et le processus de lutte. Et du coup, je ne sais pas, mais moi, c'est un peu la question, c'est... Est-ce que du coup, c'est pas aussi réfléchir aux termes dans lesquels on pose cette question-là de la guérison et dire, mais est-ce qu'on souhaite, un, la guérison d'une société encore colonisée? Et du coup, c'est comme quand on dit la paix alors qu'il y a toujours le fait colonial. Et du coup, si on dit ça, est-ce que c'est pas comment on repose la question de la guérison, de quelle société peut créer une guérison? Et du coup, ce processus-là qui passe nécessairement par la lutte. Et là, je dis ça un peu... Comme la révolution, c'est tout ou rien, quoi. Tant qu'il n'y a pas la grande guerre de libération nationale, aucun processus n'est possible. Mais si on enlève le mot violence révolutionnaire et qu'on parle simplement de lutte, par exemple, ça, c'est aussi dire on a peut-être tout un chacun des exemples où quand un collectif il se met en branle et qu'il se trouve des intérêts communs, on arrive à s'oublier du jour au lendemain des rancunes qui datent depuis des années. Et même y compris, je sais pas, moi, c'est toujours été la conception qu'on a dit, faire reculer le racisme, c'est aussi, pas que... Mais c'est aussi dans la lutte qu'on fait casser le plus facilement tous les préjugés. Du coup, je sais pas, moi, par rapport à la question qui était posée de la guérison plus tôt, où on dit, mais y compris le dominant, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas aussi une immense partie des dominants qui le sont uniquement parce que c'est la seule manière de leur faire accepter leur propre domination aussi? Et donc, est-ce que, y compris, c'est pas le processus de lutte en lui-même et qui doit être mené par les plus exploités, les plus dominés, qui peut amener ça? Et du coup, je me répète.
Merci. Je reviens vers nos invités, mais allez, une dernière intervention.
Merci beaucoup. C'était pas vraiment pour une question, c'est juste simplement parce que je pense que c'est le moment de parler aussi d'un projet qu'on a pour le week-end prochain, qui est d'organiser un week-end décolonial qu'on a nommé Une main lave l'autre, pour... référencer le soin qu'on essaye de s'apporter les uns aux autres. Et en fait, tout ce week-end s'organise autour du constat que, en tant que personne issue de l'immigration, la jeunesse ou en fait même de toutes les classes et de tous les âges, on se retrouve très souvent devant le constat que politiquement, nous ne formons pas un groupe homogène et solide. Et que, comme disait Madame Derrière, en fait, on peut avoir tendance à penser que on ne connaît pas nos histoires, on ne connaît pas nos oppressions, on ne connaît pas le système qui nous domine. Je pense que c'est une erreur. Je pense que même si la théorie politique, comme on peut l'entendre, n'est pas connue de tous, en fait, instinctivement, on sait tous ce qui nous oppresse. On sait quels sont les risques dans la rue. On sait ce qu'on nous apprend à l'école, on voit les injustices, on voit nos parents, on voit la fatigue. Et en fait, ce week-end-là, il sert justement à ce qu'on puisse en discuter. Il y a beaucoup de thèmes qui ont été pris aujourd'hui, que ce soit le folklorisme, que ce soit la religion, que ce soit simplement ce qu'on a déjà accepté, qui seront prévus avec plein d'autres choses. Je vais vous laisser des flyers. Je répète simplement que, aussi, selon nous, c'est une discussion qu'on doit avoir entre nous et qu'on pourra avoir avec les autres plus tard. Merci.
Je voudrais répondre à madame qui est porteuse de toute la souffrance du corps enseignant contemporain, qui est connue. Ce qui s'explique aussi par le fait qu'on ne trouve plus de candidats au concours. Tous les postes ne sont pas pourvus et le budget qui est en cours d'élaboration diminue encore les postes. Bon. Donc nous sommes face à une situation politique dans laquelle la droite colonialiste est au pouvoir, de la droite jusqu'à son extrême. c'est le même camp maintenant, c'est lui qui gouverne. Je vais prendre un exemple. Monsieur Macron et un certain nombre de gens qui le suivent considèrent qu'il est le deuxième empereur maritime mondial. Vous savez ce que ça veut dire ? La totalité des eaux territoriales contrôlées autour de nos territoires maritimes. C'est-à-dire si vous ajoutez ce qu'il y a autour de la Kanaky, ce qu'il y a autour de la Réunion, ce qu'il y a autour de Mayotte, ce qu'il y a autour de la Guyane et des Antilles, vous avez le deuxième territoire maritime du monde, tout de suite et presque à égalité avec les États-Unis. Ceci produit un délire de folie. C'est-à-dire M. Macron se considère comme l'égal de Trump en termes maritimes. Confronter ça aux moyens que la République française et son armée a, c'est évidemment un ridicule achevé. C'est-à-dire qu'il y a, je vous donner un exemple, il y a à Abu Dhabi un amiral français qui s'appelle Alain, vous savez, on fait beaucoup d'abréviations dans l'armée, c'est le commandant français de l'océan Indien, à lui tout seul. Le même à Tahiti, c'est Al Paci, l'amiral commandant le Pacifique. Un amiral, il a deux bateaux. Il y a deux bateaux à Abu Dhabi. Il est dans le ridicule. Mais c'est ça l'effondrement de l'Empire français, du colonialisme français, c'est-à-dire délirer. C'est ça. Et là-dessus, on a à réagir. C'est-à-dire que le budget maritime et le budget militaire qu'on va nous obliger à voter par quelques procédures astucieuses, enfin, je n'ai pas d'illusion là-dessus, va comporter encore 6 milliards de plus pour ces gens-là. Pour que le monsieur qui est à Abu Dhabi ait peut-être un petit bateau de plus. Mais le ridicule sera là et les moyens pour l'éducation nationale ne seront pas là. L'adversaire, il est là, il est chez nous et il est colonialiste, il veut le rester. Et il faut que nous soyons conscients que ce n'est pas en ayant des délires militaires complètement infondés que nous changerons quoi que ce soit. C'est l'inverse. C'est-à-dire que, et je vais beaucoup plus loin à la limite, les choix qui sont devant nous ont été éclairés par d'autres qui écrivent beaucoup mieux que moi. C'est socialisme ou barbarie. C'est tout. On a affaire à des barbares au pouvoir. Et ils le sont barbares. Alors, ils ne sont pas barbares tous les jours vis-à-vis de nous. Ils peuvent l'être très vite fait dans un quartier. Et puis, ils le sont ailleurs, dans les colonies. Ils le sont encore plus. Parce que là, ils vont jusqu'au bout d'eux-mêmes. Quand on va piller un pays pour ce qu'on lui prend et que dit « je te vole, c'est comme ça parce que je suis le capitaliste dominant », on a affaire à un voyou barbare, c'est tout. Regardons-les pour ce qu'ils sont et déjà on se sentira beaucoup mieux dans notre analyse de la situation.
Pour ma part, je voudrais donner un peu d'espoir à notre enseignante. Il y a quelques années, nous avions mis en place, et pendant plusieurs années d'affilée, avec Radio Galère, avec le Centre social Agora, dans le 14e, dans le Grand Saint-Barthélemy, ce qu'on avait appelé les banquets de Fanon. Et au banquet de Fanon, nous avons fait venir des écrivains, des sociologues, des cinéastes, chez Gémaille. Nous avions fait venir Ali Cherki, nous avons fait venir Pierre Bouvier, nous avons fait venir... Bon, j'en passe et j'en oublie. Et dans la thématique des banquets de Fanon, c'était justement d'aller à la rencontre des jeunes. Et je vous prie de croire, hein, bon, peut-être parce qu'il y avait un petit repas à la fin, mais ils étaient très nombreux et très intéressés. Nous avons fait venir aussi les trois fils et filles d'eux. Modeste Fanon, Steve Biko et j'oublie le troisième. Et le fils de Malcolm X. La fille, pardon. Et nous avions, mais après l'âge venant, nous avions aussi pris langue avec Angela Davis. Nous avions parlé avec Madame... Marlboro, comment elle s'appelle cette sociologue, enfin, bref, oui. Donc, j'en oublie. Donc, nous, on avait cette volonté-là, et c'est la volonté, c'est pour ça que Galère aimait Descartiers, et le comité est au cœur du Grand Saint-Barthélemy. On a vraiment cette volonté d'amener Fanon, mais pas que, au sein des cités et dans les écoles. On avait travaillé avec les écoles aussi.
Oui, alors, par quoi commencer ? Parce qu'il nous faut 3 heures, là. Dans la foulée, je pense qu'on se trompe si on pense que rien n'est passé de l'expérience coloniale auprès des nouvelles générations. Là où vous avez raison, c'est que la transmission, elle est parcellaire, elle est éparpillée, elle est non conscientisée, mais il y a de la transmission, y compris de la transmission physique. On sait aujourd'hui qu'il y a une transmission du trauma colonial qui ne passe même pas par les mots. Certains comportements dans le rapport à la police indiquent la connaissance de ce qui s'est joué dans le passé. Donc il y a des choses qui sont passées. Mais ces choses, elles peuvent avoir des effets extrêmement négatifs si, justement, on les enrichit pas avec les connaissances factuelles. Donc la question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'on est, nous, tous, capables de mettre en place ? Moi, je crois, je n'attends rien de l'État, hein, là-dessus. Un État qui irait enseigner à mes enfants ou mes petits-enfants ce que c'est Fanon, mais je ne lui fais pas confiance. Il faut voir les débats qu'il y a en France dans lesquels participent les gens de cet État, ceux qui décident des programmes scolaires. Il faut se rappeler les dernières campagnes électorales dans lesquelles on parlait de grands remplacements. Et donc, je ne peux pas faire confiance à des gens qui parlent de grands remplacements d'un côté de me faire un programme dans lequel ils vont parler de Fanon à mes enfants. Ça, ce n'est pas possible. Ça ne peut être que des dynamiques militantes. Et je pense que il faut qu'on multiplie les expériences. En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'en mener un certain nombre. Alors, je ne vais pas dire que les jeunes viennent quand on parle de Fanon. Mais dès qu'on a réussi à ce qu'ils écoutent 5 minutes et qu'on arrive à leur expliquer qui était Fanon et c'est quoi le contenu de ses idées, certains ici l'ont vécu. J'ai monté il y a une quinzaine d'années ce qu'on a appelé à l'époque une école anticoloniale. Tous les mois, il y avait un des grands combattants de la libération nationale qui était présenté à la fois dans sa trajectoire et à la fois dans, dans le contenu de sa pensée. On a commencé, on était une dizaine, on a fini, il n'y avait plus place. C'est-à-dire que c'est les gens qui amenaient leurs copains. Donc c'est des dynamiques à mettre en place, mais très vite, si on arrive à ce que les gens soient attentifs, eh bien, ils font le lien avec leur propre vie. Donc oui, il y a du boulot, là où vous avez raison, il y a du boulot, mais c'est à nous de le faire. Sur la question de comment guérir, oui, vous avez raison, la réponse de Fanon, d'ailleurs, c'est pas dans Les Damnés de la Terre, hein, c'est dans l'enceinte de la Révolution algérienne où il met en évidence cela. L'entrée dans la lutte est nécessaire à la guérison. On ne peut pas guérir, ce que je disais tout à l'heure, en étant séparé de ce qui tente de transformer la réalité. C'est pour ça que c'est dans des collectifs et c'est dans l'action que ça peut soigner. Mais j'avais cru comprendre, moi, que la question initialement, c'était comment on peut guérir les peuples des pays qui ont été colonisateurs. Donc c'est pour ça que la réponse était un peu différente. Sur la question du folklore, je pense qu'il faut vraiment éviter de rejeter ceux qui pensent que le folklore va les libérer, mais par contre, il faut mener le débat avec eux. Il faut mener le débat avec eux sur les dangers de cela, parce que vous avez raison, il y a des dangers. Je vais vous donner un exemple. Une des thèses aujourd'hui dans le mouvement panafricain, heureusement qu'elle n'est pas majoritaire, mais elle existe. Et très franchement, si j'étais les États-Unis ou la France, je l'encouragerais. Et je la financerais pour qu'elle se développe. C'est de dire la libération, c'est le retour à nos origines, à nos religions d'origine. Donc il faut qu'on revienne à ce que les Européens ont appelé l'animisme. Bien entendu qu'il faut... Mais qu'est-ce qu'on fait de tous les Africains qui sont devenus musulmans et chrétiens ou athées? Ça veut dire qu'on leur dénie leur africanité? Ça, vous imaginez, dans les mains d'un impérialiste, c'est le cadeau en or. Vous divisez l'Afrique en morceaux, vous donnez un certificat d'africanité à certains et pas à d'autres. Et donc, il faut faire extrêmement attention, justement, parce que le folklore peut cacher des images coloniales qui peuvent revenir. Encore une fois, le mieux, je le disais tout à l'heure, mais j'ai oublié de citer, c'est Cabral qui l'a le mieux théorisé. En gros, il dit, lorsqu'un peuple a peur de mourir, quand l'oppression est trop forte, qu'il a peur de mourir, il va se recroqueviller sur la culture de ses ancêtres et même il va la figer. C'est un besoin de survie. Mais s'il en reste là, bah, il ne survit pas. Et donc, c'est pour ça que Cabral définit la colonisation comme l'arrêt de l'histoire des peuples colonisés. On a arrêté leur histoire. Ils avaient une histoire avant, contrairement à ce que disent les colonisateurs. La colonisation l'arrête et il définit l'indépendance comme la reprise de l'histoire des colonisés. Les colonisés arrachent la reprise de leur histoire. Et comme ils reprennent l'histoire, eh bien, ils reprennent leur culture. C'est-à-dire qu'ils reprennent des éléments du passé, mais articulés à des inventions d'aujourd'hui liées aux besoins qu'ils ont de la continuité. Vous savez, la culture, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Hein. La culture, c'est la manière dont les hommes ont besoin de penser le monde pour répondre à leurs besoins concrets. On a besoin de manger dans un territoire qui est désertique. Eh bien, vous allez regarder les éléments culturels, ils sont en lien avec ça. Et les danses sont en lien avec la manière de produire la vie. Les danses paysannes ne sont pas les mêmes que les danses urbaines, etc. Et donc on voit bien que les cultures vont être le résultat de l'Afrique d'aujourd'hui et non pas simplement un héritage du passé. Et encore une fois, ça, sans aucun mépris pour le passé, il y a plein d'éléments du passé qu'on peut reprendre, mais attention à ne pas devenir simplement des éléments de zoo dans lesquels l'Européen viendrait nous applaudir pour notre pureté tout en nous prenant nos richesses, quoi.
Merci. Il y a Raphaël Constant, tu voulais intervenir aussi ? Alors, juste avant ton intervention, je voudrais juste dire qu'on a débordé. On était censé arrêter à 18h. On va arrêter à peu près à 18h30 pour ensuite passer à la projection du film de Radio Galère en 2012-2011 sur la tombe, 2011 sur la tombe de Fanon. Et après cette projection, il y a Nadia Amour qui est là parmi nous. Je l'ai vu venir, qui va nous faire qui va nous partager son répertoire chanté de l'Algérie kabyle sur les chants des opprimés, on va dire, les chants de l'indépendance. Alors Raphaël Constant, je te donne la parole. On t'écoute, Raphaël.
Excusez-moi. Je voudrais dire trois choses. La première est celle-ci. Il y a un des invités qui a dit que la critique aujourd'hui de Fanon consiste à le découper en morceaux et puis de dire qu'il y a des morceaux qui sont bons et il y a des morceaux à jeter. On connaît ça en Martinique. Par exemple, au début de l'année, il y a une association... On appelle tous créoles, qui est une association pro-béquet, c'est-à-dire qui soutient la communauté des descendants des esclavagistes. Ils ont fait une journée sur Fanon en disant que c'est un grand guerrier mythique, mais qui en même temps a dit des choses qui empêchait le vivre ensemble. On a eu aussi une manifestation faite par le professeur Charles-Nicolas, où Adam Schwartz était un des invités, qui aussi a présenté cette vision de Fanon à devoir apprécier de manière critique et à critiquer sa position sur la violence. Il est certain qu'aujourd'hui, la principale critique que l'on fait à Fanon, c'est de le présenter comme un concepteur de la violence, ce qu'il n'est pas. Fanon dit, particulièrement dans les Damnés de la Terre, que la société coloniale est fondamentalement violente. Et qu'il n'y a pas d'exemple à ce jour. Lui, il écrivait en 60. Ben, 65 ans après, on est toujours au même résultat. Il n'a pas d'exemple de décolonisation qui ne soit pas violente, si c'est une vraie décolonisation. Et très sincèrement, la rencontre internationale, nous l'avons dédiée à trois peuples. Le peuple palestinien, dont je ne vais pas développer qu'il est vraiment victime de la violence. Le peuple kanak, dont je rappelle que ça fait depuis 1900, 90, la France a admis l'existence de la colonisation, mais 35 ans toujours après, on refuse réellement la décolonisation et le peuple haïtien. Ce que je veux dire, ce sont des exemples concrets où, malheureusement, la décolonisation ne peut se faire que par la violence. Même si ce n'est pas la violence qui va résoudre le problème, il y a la violence qui apparaît, qui, à un moment donné, permet d'accélérer les choses. Il est certain que si Éloi Machoro n'avait pas été tué, les accords de Matignon n'auraient pas eu lieu 4 ans après. Donc c'est ce que constate Fanon. La réalité de la violence et le fait que le dominé, non pas pour se guérir, mais pour se porter à hauteur du dominateur, il est contraint d'utiliser la violence. Parce que le fait essentiel, c'est que le dominateur ne croit pas à la démocratie, ne croit pas à la liberté et ne croit et n'entend que la violence. C'est la réalité concrète qu'on a aujourd'hui et qu'on constate encore dans le monde entier. Donc, cette idée de dire « Fanon est très bien, c'est un bon psychiatre, c'est un homme courageux, mais sur la violence, il s'est trompé », il y a un lien étroit entre toute la pensée de Fanon, y compris la pensée qui est née de son activité de psychiatre et ses choix politiques, entre autres d'avoir adhéré pleinement à la révolution algérienne. Et vous savez, il y a eu des débats en Martinique, et je vais finir sur cela, pour savoir est-ce qu'il fallait demander le rapatriement du corps de Fanon en Martinique. Et la position de notre cercle a été de dire que c'est Fanon qui a choisi d'être enterré dans le lieu où il s'est battu. Et c'est sous la protection de l'ALM qu'il a été enterré en terre algérienne en pleine guerre pour l'indépendance. Et enfin, que nous pensons que la Martinique, terre colonisée, n'est pas encore digne de pouvoir accueillir même un morceau de la dépouille de Fanon. Donc la question qui se pose, c'est que dans la défense des idées de Fanon, c'est une lutte permanente. Pour répondre à la dame qui parlait des drames dans l'école, il est certain que Fanon n'est pas au programme. En revanche, il y a des sympathisants, des militants qui, à travers les associations à l'intérieur des lycées, à l'intérieur des collèges, nous allons régulièrement faire des conférences sur la vie et l'œuvre de Fanon. Là, cette semaine, pour un mois, le lycée France Fanon, qui se trouve à Trinité, ouvre une séance de commémoration pour le centenaire. Il y aura un atelier sur la vie de Fanon, un atelier sur peau noire, masque blanc, un atelier sur les damnés de la terre, et le 12 décembre, il y aura une conférence du cercle sur l'actualité de Fanon. Nous sommes obligés de nous battre pour la paix, et je suis d'accord avec une des personnes qui m'a précédé, c'est pas de l'éducation nationale ou de nos dominateurs que nous pouvons attendre qui nous expliquent qui est Fanon. C'est à nous de travailler, non pas de manière dogmatique, parce que l'œuvre de Fanon est assez vaste, complexe, pour permettre le débat, mais de dire vraiment qui était Fanon en tant qu'homme et en tant que penseur. Voilà, la troisième chose, je voudrais tous vous saluer. Je suis certain que vous vivez dans une situation compliquée. Je ne pense pas que Fanon soit le remède, mais je pense que la lutte est le remède et que Fanon peut aider à permettre la lutte. Et c'est en quoi, 100 ans après sa naissance, il reste quelqu'un d'important pour les gens qui sont opprimés et les peuples qui sont encore colonisés. Donc je vous salue tous, je vous souhaite bon succès dans vos combats et j'espère que nous nous retrouverons et que nous gagnerons dans une situation internationale française, martiniquaise, qui aujourd'hui est très complexe et qui nécessite notre mobilisation et notre vigilance. Merci pour tout, bon courage, gagnez, nous allons gagner avec Fanon. Et nous allons gagner parce que nous allons nous battre.
Merci, merci Raphaël Constant. On arrive à la fin de, du débat et de notre rencontre. Et je vous laisse les mots, le mot de la fin à chacun d'entre vous, chacune, si vous voulez bien, avant de passer à la projection. Alors, est-ce que tu voudrais dire le mot?
Oui, moi je vais reprendre Fanon pour dire le dernier mot. Fanon nous invite à quitter cette Europe qui ne produit que de la misère et de l'oppression. Lorsqu'il dit Europe, c'est bien entendu pas quitter géographiquement. C'est le modèle de société qui était dominant, c'est-à-dire le capitalisme, le colonialisme et le racisme. Je pense que ce programme-là, il est encore d'actualité, et tant que nous aurons un système qui ne fonctionne que sur la base du profit et de l'oppression des peuples, eh bien, il y aura besoin de quitter cette Europe.
Bernard ou Eric ? Ouais.
Mot de la fin, ben moi je citerai simplement Aimé Césaire. Aimé Césaire dans Moi laminaire, chacun sait qu'est-ce qu'un laminaire. C'est cette algue qui est accrochée à son rocher, pour Césaire à son île natale, accrochée à son rocher et qui est ballottée par les flots, etc., mais qui reste toujours accrochée à son rocher. Et je lis son, donc le poème dans son œuvre « Moi laminaire » par tout mot, guerrier silex. Donc je ne vendrai pas l'ensemble du poème, mais je donne simplement le dernier paragraphe. Je t'énonce, Fanon, tu rayes le fer, tu rayes le barreau des prisons, tu rayes le regard des bourreaux, guerrier silex, vomi par la gueule du serpent de la mangrove.
Je vais vous parler de biodiversité, on n'en a pas parlé. Le Kikuyu fait partie des langues dites bantoues. Il y en a 600. Il y a 600 langues bantoues depuis l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien. Parler sa langue à soi, c'est éviter de penser avec la langue de l'adversaire. Nous sommes face à une situation où on va nous faire penser en anglais, on nous fait déjà penser en anglais, un anglais rudimentaire qui n'est même plus l'anglais littéraire. Penser dans la langue de notre pays, c'est déjà une défense contre ceux qui veulent nous gouverner à travers leur langue, leur slogan, leur marque. Tout ça, ça fait partie de la décolonisation. Nous sommes dans ce processus. Il faut bien que nous soyons conscients. Ça, c'est tous les jours qu'on doit dire « mais les frites de Kenchuki, machin, je m'en fous, les frites, ça se fait à la maison ». Etc. Dans les manifestations palestines, on dit tous les dimanches « boycott Coca-Cola ». C'est stupide, et en même temps non, parce que Coca-Cola prend la meilleure eau de source dans tous les pays du monde où il met son petit mélange dans les bouteilles. Donc c'est un pilleur d'eau propre. Retenons ça, mais retenons aussi cette biodiversité des langues. Essayons de penser dans notre langue et pas dans la langue du dominant, car la France, l'Europe, est un continent dominé. Même si elle a beaucoup dominé les autres. Ouais.
Merci. Et Raphaël Constant, tu veux rajouter un dernier mot ?
Alors, j'ai déjà conclu. Hein.
C'est vrai, mais c'est bon. Alors, tu n'as plus rien à rajouter.
Bon courage.
Merci. Merci à Sidi et à Clem d'avoir géré la technique. Merci à Comaguerre, merci au comité Maméga, au FUIQP et Radio Galère, et Alterna TV aussi d'avoir été en partenariat avec ce débat. Et nous allons passer à la projection, reportage amateur retraçant le recueillement des militants et des militantes à Marseille, de Marseille sur la tombe de Frantz Fanon qui est située à Aïn El Kerma en Algérie. Et ensuite, après cette projection, il y aura Nadia Amour du groupe Tigri Ouzar qui va nous chanter des chants de l'indépendance. Merci encore à tous et à toutes d'avoir été présents et présentes.